Chant quatrième. Les prétendants. Viennent le temps où les violettes, dans les fraîches prairies, éclosent à bouquets. Ne manquent pas les couples pour aller les cueillir à l'ombre. Viennent le temps où la mère apaise sa fière poitrine et respire lentement de toutes ses mamelles. Ne manquent pas les prames et les cyclandes qui, de Martigues à belles troupes, partent et vont de leur paillole entortiller le poisson et vont, sur l'aile de leur âme, s'éparpiller dans la mer tranquille. Vienne le temps où, parmi les femmes, l'essaim des jeunes filles fleurit et paraît, où pastourelles ou comtesses prennent renom de beauté, ne manquent pas les poursuivants, en crocs et au manoir. Et rien qu'au mas des Micocoules, il en vint trois. Un gardien de cavale, un pasteur de génisses et un berger de brebis, tous les trois beaux garçons. Vint d'abord le berger à Larry. On dit qu'il possédait 1000 bêtes à laine, attachées tout l'hiver le long du lac d'Entrecène, au bon gramin salé. On dit qu'à l'époque où le froment forme ses nœuds, dans les fraîches hauteurs des grandes Alpes, il les conduisait lui-même dès que l'on s'en met. On dit aussi, et je le crois, que vers la Saint-Marc, 9 tondeurs, 3 jours tondaient pour lui, et des hommes fameux. Et Jomet, celui qui enlève les toisons de laine blanche et pesante, et le bergereau qui, sans relâche, charriait au tondeur un broc promptement bu. Mais lorsqu'ensuite la chaleur s'apaise, et que la neige sur les grandes cimes déjà tourbillonne au pays montagnard, de l'immense plaine de crocs, pour brouter l'herbe hivernale, il fallait voir des hautes vallées dauphinoises descendre ce riche troupeau. Il fallait voir cette multitude se développer dans le chemin pierreux. Au front de toute la troupe, les agneaux hâtifs cabriolent par joyeuses bandes. L'agnelier les dirige. Les ânes portant sonnailles et les ânons et les ânesses en désordre les suivaient. À Califourchon sur la Bardelle, l'ânier en a la garde. Dans les mânes de Sparterie, ce sont eux sur le bas, eux qui portent les hardes et la boisson et les vivres, et du bétail qu'on écorche, la peau encore saignante et l'agneau fatigué. Capitaine de la phalange, avec leurs cornes retroussées, après venaient de front, en branlant leurs clarines et le regard de travers, 5 fiers boucs à la tête menaçante. Derrière les boucs viennent les mères et les folles chevrettes et les blancs petits chevreaux, troupe gourmande des vagabondes. Le chevrier la commande, les mâles des brebis, les grands béliers conducteurs, dont les museaux dans l'air se dressent, alors paraissent dans la voie. On les reconnaît à leurs grandes cornes, 3 fois entortillées autour de l'oreille. Et aussi, honorable signe qu'ils sont les sires du troupeau, ils ont les côtes, ils ont le dos orné de houppes. En tête de la troupe marche le chef des pâtres, et de son manteau, il s'enveloppe les 2 épaules. Mais le gros de l'armée arrive à la suite. Et, dans un nuage de poussière, et précédant la foule, et empressé, courent les brebis mères, répondant par de longs bêlements aux bêlements de leurs petits. Et la nuque ornée de bouffettes rouges, ensemble poudroie les antenois et les moutons laineux qui vont à pas lents. Les aides-bergers, d'intervalle en intervalle, criant aux chiens « À la volte !» Et le flanc marqué de poids, l'innombrable plèbe, les adultes, les brebis qui mettent bas 2 fois, et celles dont 2 fois les dents de marque ont percé, et celles qu'on a privées de leurs agneaux, et les fécondes baissonnières qui ont peine à traîner leur ventre embarrassant, escadrons dépenaillés parmi les Bréhaignes, les vieux béliers qui ont été vaincus au combat d'amour, avec les édentées et les boiteuses, ferment enfin l'arrière-garde, béliers crevés, tristes débris qui ont perdu tout ensemble et les cornes et l'honneur. Et tout cela, brebis et chèvres, autant qu'en contenait la voix, était à Alary, tout, jeune et vieux, beau et laid. Et devant lui, lorsqu'elle descendait, qu'elle défilait par centaines, ses yeux se délectaient à cette vue. Il portait comme un sceptre un rondin d'érable. Et, avec ses blancs et grands chiens de parc qui le suivaient dans les pâturages, les genoux boutonnés dans ses guêtres de peau, et l'air serein, et le front sage, vous l'eussiez cru le beau roi David, quand, vers le soir, au puits des aïeux, il allait, dans sa jeunesse, abreuver les troupeaux. Voilà Mireille qui va et vient devant le mas des Micocoules, dit le pâtre. Ô Dieu, l'on m'a dit vrai. Ni dans la plaine, ni sur les hauteurs, ni en peinture, ni en réalité, je n'en ai vu aucune qui, à la ceinture, lui aille pour les manières, la grâce, la beauté. Car rien que pour la voir, Alary s'était éloigné de ses bêtes. Cependant, quand il fut devant elle, pourrais-tu, lui dit-il d'une voix qui tremble, me montrer un sentier pour traverser les collines? Sinon, jeune fille, j'ai peur de ne pas en sortir.
Il n'y a qu'à prendre le droit chemin, voyez, répondit la fille des champs. Vous enfilez ensuite le désert de Peyremal, et vous marchez dans le val tortueux jusqu'à ce qu'un portique se montre à vos regards, avec un tombeau qui supporte deux généraux de pierre, là-haut, dans les airs. C'est ce qu'on nomme les antiques.
Grand merci, réplique le jeune homme. Mille bêtes à laine, portant ma marque dans la croc, montent demain à la montagne, et je précède le bataillon pour lui marquer à travers champs les packages, la couchée et aussi le chemin. Et c'est tout bête fine, et en quelque temps que je me marie, ma bergère entendra tout le jour chanter le rossignol. Et si j'avais l'heure, belle Mireille, que tu acceptasses ma livrée, je t'offrirai non pas des bijoux d'or, mais un vase que j'ai fait pour toi, de buis et battant neuf. Et comme il cesse de parler, tel qu'une relique, de sa veste, il sort une coupe taillée dans le buis vif. Car, à ses heures de loisir, il aimait, assis sur une pierre, à se distraire à ses choses. Et seulement avec un couteau, il faisait des œuvres divines. Et d'une main fantaisiste, il sculptait des cliquettes pour la nuit dans les champs conduire son troupeau, et sur le collier des clarines et sur l'os blanc qui leur sert de battant, il faisait des tailles et des entretailles et des fleurs et des oiseaux et tout ce qu'il voulait. Mais le vase qu'il venait d'apporter, vous auriez nié, je vous l'assure, que couteau de berger eût passé par là. Un cisse bien fleuri autour de lui s'épanouissait. Et dans ses roses langoureuses, deux chevreuils paissaient, formant les anses. Un peu plus bas, on voyait trois jeunes filles, qui étaient certainement trois merveilles. Non loin de là, sous un cadre, un pastoureau dormait. Les folâtres fillettes s'approchaient de lui doucement et mettaient sur sa bouche un grappillon de raisin qu'elles avaient dans leur panier. Et l'enfant qui sommeillait s'éveillait tout souriant, et l'une des fillettes avait l'air émue. Sans la couleur de la racine, vous eussiez dit que les figures étaient vivantes dans cet ouvrage. Il sentait encore le neuf. Il n'y avait pas bu encore.
« En vérité, dit Mireille, pâtre, votre livrée tente la vue. »
Et elle l'examinait, puis partant tout d'un bond.
« Mon bien-aimé en a une plus belle, son amour, pâtre. Et lorsque, passionné, il me regarde, il me faut baisser les paupières, ou bien je sens courir en moi un bonheur qui me navre. »
Et la jeune fille, comme un lutin, disparut. Le berger Alary renferma son vase et lentement, au crépuscule, s'en alla de la Bastide, troublé par la pensée qu'une si belle fille, pour un autre que lui, eût tant d'amour. Au même mas des Micocoules vint aussi un gardien de cavale, Véran. Ce Véran y vient du Sambuc. Au Sambuc,
dans les grandes prairies où fleurit la cabridelle, il avait 100 cavales blanches et pointant les hauts roseaux des marécages. 100 cavales blanches. La crinière, comme la massette des marais, ondoyante, touffue et franche du ciseau. Dans leurs ardents élans, lorsqu'elles partaient ensuite, effrénées comme l'écharpe d'une fée, au-dessus de leur cou, elles flottaient dans le ciel. Honte à toi, race humaine! Les cavales de Camargue, aux poignants éperons qui leur déchirent le flanc, comme à la main qui les caresse, jamais on ne les vit soumises. Enchevêtrées par trahison, j'en ai vu exilées loin du pâti salé. Et, un jour, d'un bon revêche éperon, jeté bas quiconque les monte, d'un galop dévoré 20 lieues de marécage, flairant le vent, et revenus aux Vacarès, où elles naquirent, après 10 ans d'esclavage, respirer l'émanation salée et libre de la mer. Car à cette race sauvage, son élément, c'est la mer. Du char de Neptune échappée sans doute, elle est encore teinte d'écume. Et quand la mer souffle et s'assombrit, quand des vaisseaux rompent les câbles, les étalons de Camargue hennissent de bonheur. Et font claquer comme la ficelle d'un fouet leur longue queue traînante, et grattent le sol, et sentent dans leur chair entrer le trident du dieu terrible, qui, dans un horrible pêle-mêle, meut la tempête et le déluge, et bouleverse de fond en comble les abîmes de la mer. Ce Véran les gardait au pâturage. Un jour qu'il parcourait la croix, jusqu'auprès de Mireille, Véran, dit-on, poussa ses pas. Car en Camargue, et jusque là-bas, aux larges bouches par où le Rhône se décharge, on disait qu'elle était belle, et longtemps on le dira. Il y vint fièrement, avec veste à l'arlésienne longue et blonde, jetée sur l'épaule en guise de manteau, avec ceinture bariolée comme un dos de lézard, et chapeau de toile cirée où se réfléchissait l'éclat du soleil. Et lorsqu'il fut devant le maître, « Bonjour et bien-être à vous. Du Rhône Camarguais je suis, dit-il, un riverain. Je suis le petit-fils du gardien Pierre. Au reste, vous devez le voir, car au moins 20 ans, avec ses coursiers, mon aïeul, le gardien Pierre, a foulé votre errée. Dans le marais qui nous entoure, mon vénérable aïeul avait 3 rodes de coursiers. Il vous en souvient? Mais, maître, oh, si vous voyez depuis le riche croix de ce levain, elles peuvent en abattre les faucilles. Nous en avons 7 rodes et 7 liens. Longtemps, ô mon fils, répondit le vieillard, oui, longtemps, puisses-tu les voir multiplier et les conduire au pâturage. J'ai connu ton aïeul, et certes c'était avec lui une amitié de longue main. Mais lorsqu'enfin l'âge nous glace, à la clarté de notre lampe, nous demeurons en repos, et les amis, adieu. Ce n'est pas tout, dit le jeune homme, vous ne savez pas ce que je veux de vous. Plus d'une fois, au Sambuc, quand viennent les gens de Croc quérir des chariots de litière, pendant que, de leur chargement, nous leur aidons à serrer la liure, il nous arrive de parler des fillettes de Croc. Et ils m'ont peint votre Mireille, tellement de mon goût, qu'à votre idée, si vous trouvez Véran, votre gendre sera... Véran, puissais-je voir cela ? S'écria Ramon. Car de ton ancêtre, de mon ami le gardien Pierre, le rejeton fleuri ne peut que m'honorer. Et tel qu'un homme qui rend grâce au Seigneur Dieu, dans l'étendue, il leva ses 2 mains en s'écriant « Pourvu que tu plaises à la petite, car étant seule, elle est la bien-aimée. En prémisse de la dot, l'éternité des saints advienne et la bénédiction. » Et sur le champ, il appelle sa fille et lui dit vite ce qui se traite. Pâle soudain, le regard interdit et tremblante d'appréhension. « Mais votre sainte intelligence, lui parla-t-elle ainsi, père, à quoi pense-t-elle pour vouloir si jeune m'éloigner de vous? Vois, Il faut que lentement cela se mène, m'avez-vous eu dit, pour s'épouser. Il faut connaître les gens, il faut en être connu. Et les connaître, qu'est-ce encore ?
Et dans la brume de son visage, soudain apparut, claire, une douce pensée. Un matin qu'il a plu, on voit ainsi les fleurs noyées à travers l'eau troublée. La mère de Mireille approuva ses paroles, et le gardien, en souriant, « Maître Ramon, dit-il, je me retire, car du cousin, je vous le dis, un gardien camargué connaît la piqûre. » Aumas, dans le même été, vint des pâturages du sauvage pour voir la jeune fille, Urias le toucheur. Du sauvage, noir, méchant et fameux sont les bœufs. Au grand soleil, sous les frimas, sous le battement des pluies diluviennes, là, seul avec ses vaches, Urias les paissait toute l'année. Né dans le troupeau, élevé avec les bœufs, des bœufs il avait la structure et l'œil sauvage et la noirceur et l'air revêche et l'âme dure. Un rondin à la main, le vêtement jeté par terre, combien de fois rudes sevreurs, des mamelles de leur mère, n'avaient-ils pas arraché, sevré les veaux ? Et sur la mer en courroux, rompu de gourdins une brassée, jusqu'à ce qu'elle fuit l'orage de coups, hurlante, et retournant la tête entre les jeunes pins. Combien de bouvillons et de génisses, dans les ferrades camarguaises, n'avaient-ils pas renversé par les cornes ? Aussi en gardait-il entre les sourcils une balafre pareille à la nuée que la foudre déchire. Et les salicornes et les traînasses de son sang ruisselant s'étaient teintes jadis. C'était un beau jour de grande ferrade. Pour assembler les bœufs, les saintes, Pharamond, Aiguemorte, Albaron avaient envoyé dans les friches 100 cavaliers de leurs plus fermes. Cependant, au lieu déterminé, où un peuple en délire enferme un vaste cirque, éveillés en sursaut dans la plaine salée, poursuivis du trident dont les perces au galop le bouillant toucheur, à course folle, taureaux et taures, venaient comme un rugissement de vent, en écrasant Typhas et Centauré, venaient de se rassembler 300 au lieu du marquement. La multitude cornue s'arrête, effarée, muette. Mais l'arme dans les côtes, à hâte d'éperon, trois fois encore ils lui font parcourir le circuit de l'amphithéâtre, tel que le chien après la martre, tel que l'aigle du Luberon après les cresserelles. Qui le croirait ? De sa cavale contre la coutume, Urias descend. Aux portes de l'arène, agglomérés, les bœufs, terriblement soudain s'ébranle, et dans l'arène promptement s'élance 5 bouvillons dont les yeux flamboient et qui percent le ciel de leur tête superbe. Comme le vent, Urias se précipite. Comme le vent, après les nues, il est poursuit à la course les pique, à la course tantôt les devance, tantôt de sa lance les heurte, tantôt danse devant eux, tantôt les gourmandes d'un vigoureux coup de poing. Aïe, tout le peuple bat des mains. Urias, blanc de poussière olympique, par les cornes, à la course, enfin en a pris un. Et tête et mufle, et force à force. Il veut dégager ses cornes retroussées, le noir monstre, et il tord sa croupe, et mugit de fureur, et renifle sang et fumée. Vaine fureur, inutile bond, le bouvier d'un coup subtil appuie à son épaule en lui tordant le cou l'horrible tête de la brute, et rudement et en sens contraire, poussant la bête comme un rempart, chrétien et bête roulent par terre. Une clameur frénétique fait trembler les tamaris. Bonhomme, Urias, bonhomme ! Et 5 gars aux larges épaules tenaient le taureau. De son triomphe, pour lui marquer le baptistère, Urias lui-même prend le fer et, avec le fer chaud, il lui brûle la croupe. Un vol de filles d'Arles, en selle, le sein fortement agité, empourprés au galop de leur haquenée blanche,
viennent lui apporter une grande corne rase de vin, et dans la plaine, alerte, le tourbillon de nouveau s'évapore. Un vol de cavaliers les suivent brûlants. Urias ne voit que Beuse à terrasser. Quatre restaient encore. Mais comme le faucheur, à abattre le foin, est d'autant plus ardent qu'il en reste davantage, aux durs efforts du combat, de plus en plus il tenait tête, et de quatre animaux il énerva les reins. Taches de blanc, cornes superbes, le dernier tondait le gazon. « Urias, assez, assez !» tous les vieux vachers lui crièrent. Vaine écluse, sur le taureau aux blanches taches, le trident posé sur la hanche, moite de sueur, la poitrine nue, il fondait déjà. Zan ! Comme il l'atteint en plein mufle, le trident vole en éclats. L'atroce blessure rend le taureau démoniaque. D'un bond, le toucheur le saisit aux cornes, ils partent ensemble, et de la plaine ravagent ensemble les salicornes. À cheval, appuyés sur les longues hampes de leurs aiguillons, les vachédars les dégues-mortes contemplaient la forte lutte. Pour la victoire, tous deux furieux, acharnés, l'homme domptant le bœuf qui mugit, le bœuf entraînant le dompteur, et d'une langue écumeuse, léchant à la course son mufle ensanglanté. Miséricorde, le bœuf l'emporte. Comme une vile ratelée, l'homme a roulé devant lui, entraîné par l'élan. Fais-le mort, fais-le mort. De terre, avec ses pointes, le bœuf l'enlève, et dans les airs, sa tête farouche, à sept cannes de haut, le lance en arrière. Une clameur frénétique fait trembler les tamaris. Au loin, le malheureux va tomber, la face contre terre, brisé. Il portait depuis lors la cicatrice qui le défigurait. Sur la cavale qu'il montait, il vint donc chez Mireille, armé de sa pique. Cette matinée-là, la jeune Vierge était seulette à la fontaine. Elle avait retroussé ses manches et son jupon et nettoyé les éclisses avec la prêle polisseuse. Sainte de Dieu, qu'elle était belle, guéant ses petits pieds dans la source claire. Urias dit « Bonjour, la belle. Eh bien, vous rincez vos éclisses ? À cette source claire, si vous le permettiez, j'abreuverai ma bête blanche. » « Oh, l'eau ne manque pas ici, » répondit-elle. « Dans l'écluse, vous pouvez la faire boire autant qu'il vous plaît. »« Belle, » dit le sauvage enfant, « si, comme épouse ou pèlerine, vous veniez à Silva Real, où l'on entend la mer, belle, vous n'auriez pas tant de peine, car la vache de race noire se promène, libre et farouche, et jamais on ne la trait, et les femmes ont du bon temps. Jeune homme, au pays des bœufs, d'ennui les jeunes filles meurent. Belle, d'ennui, quand on est deux, il n'en est pas. Jeune homme qui s'égare dans ces contrées lointaines, boit, dit-on, une eau amère, et le soleil lui brûle le visage. Belle, sous les pins, vous vous tiendrez à l'ombre. Jeune homme, on dit qu'il monte au pain des tortilles de serpents verdâtres. Belle, nous avons les flamands, nous avons les hérons, qui, déployant leurs manteaux roses, leur font la chasse le long du Rhône. Jeune homme, écoutez que je vous interrompe, ils sont trop loin, vos pins, de mes micocouliers. Belle, prêtres et filles ne peuvent savoir la patrie où ils iront, dit le proverbe. Mangez leur pain un jour. Pourvu que je le mange avec celui que j'aime, jeune homme, je ne réclame rien de plus pour me sévrer de mon nid. Belle, s'il en est ainsi, donnez-moi votre amour. Jeune homme, vous l'aurez, dit Mireille. Mais ces plantes de nymphéa porteront auparavant des raisins colombins. Auparavant, votre trident jettera des fleurs. Ces collines s'amolliront comme la cire, et l'on ira par mer à la ville des beaux.